Bernardin de Saint-Pierre, essai sur Jean-Jacques Rousseau. Au mois de juin de 1772, un ami m'ayant proposé de me mener chez Jean-Jacques Rousseau, il me conduisit dans une maison rue Plâtrière, à peu près vis-à-vis de l'hôtel de la Poste. Nous montâmes au quatrième étage. Nous frappâmes et Madame Rousseau vint nous ouvrir la porte. Elle nous dit « Entrez, messieurs, vous allez trouver mon mari. » Nous traversâmes une fort petite antichambre où des ustensiles de ménage étaient proprement arrangés. De là, nous entrâmes dans une chambre où Jean-Jacques Rousseau était assis, en redingote et en bonnet blanc, occupé à copier de la musique. Il se leva d'un air riant, nous présenta des chaises et se remit à son travail en se livrant toutefois à la conversation. Il était maigre et d'une taille moyenne. Une de ses épaules paraissait un peu plus élevée que l'autre, soit que ce fût l'effet d'un défaut naturel, ou de l'attitude qu'il prenait dans son travail, ou de l'âge qu'il avait voûté, car il avait alors 60 ans. D'ailleurs, il était fort bien proportionné. Il avait le teint brun, quelques couleurs aux pommettes des joues, la bouche belle, le nez très bien fait, le front rond et élevé, les yeux pleins de feu. Les traits obliques qui tombent des narines vers les extrémités de la bouche et qui caractérisent la physionomie exprimaient dans la sienne une grande sensibilité et quelque chose même de douloureux. On remarquait dans son visage 3 ou 4 caractères de la mélancolie par l'enfoncement des yeux et par l'affaissement des sourcils, de la tristesse profonde par les rides du front, une gaieté très vive et même un peu caustique par 1000 petits plis aux angles extérieurs des yeux dont les orbites disparaissaient quand il riait. Toutes ces passions se peignaient successivement sur son visage, suivant que les sujets de la conversation affectaient son âme. Mais dans une situation calme, sa figure conservait une empreinte de toutes ses affections et offrait à la fois je ne sais quoi d'aimable, de fin, de touchant, de digne de pitié, de respect. Près de lui était une épinette sur laquelle il essayait de temps en temps des airs. 2 petits lits de cotonnade rayée de bleu et de blanc, comme la tenture de sa chambre, une commode, une table et quelques chaises faisaient tout son mobilier. Aux murs était attaché un plan de la forêt du parc de Montmorency, où il avait demeuré, et une estampe du roi d'Angleterre, son ancien bienfaiteur. Sa femme était assise, occupée à coudre du linge. Un serin chantait dans sa cage, suspendue au plafond. Des moineaux venaient manger du pain sur ses fenêtres ouvertes du côté de la rue, et sur celles de l'antichambre, on voyait des caisses et des pots remplis de plantes telles qu'il plaît à la nature de les semer. Il y avait dans l'ensemble de son petit ménage un air de propreté, de paix et de simplicité qui faisait plaisir. Il me parla de mes voyages. Ensuite, la conversation roula sur les nouvelles du temps, après quoi il nous lut une lettre manuscrite en réponse à M. le marquis de Mirabeau, qu'il avait interpellé dans une discussion politique. Il le suppliait de ne pas le rengager dans les tracasseries de la littérature. Je lui parlai de ses ouvrages, je lui dis que je n'en aimais le plus. C'était le Devin de village et le 3e volume d'Émile. Il me parut charmé de mon sentiment. « C'est aussi, me dit-il, ce que j'aime le mieux avoir fait. Mes ennemis ont beau dire, ils ne feront jamais un Devin de village. » Il nous montra une collection de graines de toute espèce. Il les avait arrangées dans une multitude de petites boîtes. Je ne pus m'empêcher de lui dire que je n'avais vu personne qui eût ramassé une si grande quantité de graines et qui eût si peu de terre. Cette idée le fit rire. Il nous reconduisit, lorsque nous prîmes congé de lui, jusque sur le bord de son escalier. À quelques jours de là, il vint me rendre ma visite. Il était en perruque ronde, bien poudrée et bien frisée, portant un chapeau sous le bras, et en habit complet de nankin. Il tenait une petite canne à la main. Tout son extérieur était modeste, mais fort propre, comme on le dit de celui de Socrate. Je lui offris une pièce de coco marin avec son fruit pour augmenter sa collection de graines, et il me fit le plaisir de l'accepter. Avant de sortir de chez moi, nous passâmes dans une chambre où je lui fis voir une belle immortelle du Cap, dont les fleurs ressemblent à des fraises et les feuilles à des morceaux de drap gris. Il la trouva charmante, mais je l'avais donnée et elle n'était déjà plus à ma disposition. Comme je le reconduisais à travers les Tuileries, il sentit l'odeur du café. « Voici, me dit-il, un parfum que j'aime beaucoup. Quand on en brûle dans mon escalier, j'ai des voisins qui ferment leurs portes et moi j'ouvre la mienne. » « Vous prenez donc du café, lui dis-je, puisque vous en aimez l'odeur. » « Oui, me répondit-il, c'est presque tout ce que j'aime des choses de luxe, les glaces et le café. » J'avais apporté une balle de café de l'île de Bourbon, et j'en avais fait quelques paquets que je distribuais à mes amis. Je lui en envoyais un le lendemain avec un billet où je lui demandais que, sachant son goût pour les graines étrangères, je le priais d'accepter celle-là. Il me répondit par un billet fort poli où il me remercia de mon attention. Mais le jour suivant, j'en reçus un autre d'un ton bien différent. En voici la copie. Hier, monsieur, j'avais du monde chez moi qui m'a empêché d'examiner ce que contenait le paquet que vous m'avez envoyé. À peine nous nous connaissons et vous débutez par des cadeaux. C'est rendre notre société trop inégale. Ma fortune ne me permet point d'en faire. Choisissez de reprendre votre café ou de ne plus vous voir. Agréez mes très humbles salutations, Jean-Jacques Rousseau. Je lui répondis qu'ayant été dans le pays où croissait le café, la qualité et la quantité de ce présent le rendaient de peu d'importance, qu'au reste je lui laissais le choix de l'alternative qu'il m'avait donnée. Cette petite altercation se termina aux conditions que j'accepterais de sa part une racine de ginseng et un ouvrage sur l'ichtyologie qu'on lui avait envoyé de Montpellier. Il m'invita à dîner pour le lendemain. Je me rendis chez lui à 11 heures du matin. Nous conversâmes jusqu'à 12h30. Alors son épouse mit la nappe. Il prit une bouteille de vin et en la posant sur la table, il me demanda si nous en aurions assez et si j'aimais à boire. « Combien sommes-nous ? » lui dis-je. « 3, dit-il, vous, ma femme et moi. » « Quand je bois du vin, lui répondis-je, et que je suis seul, j'en bois bien une demi-bouteille et j'en bois un peu plus quand je suis avec mes amis. » « Oh, cela étant, reprit-il, nous n'en avons pas assez, il faut que je descende à la cave. » Il en rapporta une seconde bouteille. Sa femme servit 2 plats, un de petits pâtés et un autre qui était couvert. Il me dit en me montrant le premier, « Voici votre plat et l'autre est le mien. Oh, je mange peu de pâtisserie, lui dis-je, mais j'espère bien goûter du vôtre. »« Oh, me dit-il. » Ils nous sont communs tous deux. Mais bien des gens ne se soucient pas de celui-là. C'est un mets suisse, un pot pourri de lard, de mouton, de légumes et de châtaignes. Il se trouva excellent. Ces 2 plats furent relevés par des tranches de bœuf en salade, ensuite par des biscuits et du fromage, après quoi sa femme servit le café. « Je ne vous offre point de liqueur, me dit-il, parce que je n'en ai point. Je suis comme le cordelier qui prêchait sur l'adultère. J'aime mieux boire une bouteille de vin qu'un verre de liqueur. » Pendant le repas, nous parlâmes des Indes, des Grecs et des Romains. Après le dîner, il fut me chercher quelques manuscrits dont je parlerai quand il sera question de ses ouvrages. Il me lut une continuation d'Émile, quelques lettres sur la botanique, un petit poème en prose sur le Lévite dont les Benjamites violèrent la femme, des morceaux charmants traduits du Tasse. Comptez-vous donner ces écrits au public ? Oh, Dieu m'en garde, dit-il. Je les ai faits pour mon plaisir, pour causer le soir avec ma femme. Oh oui, que cela est touchant, reprit Madame Brousseau. Cette pauvre Sophronie, j'ai bien pleuré quand mon mari m'a lu cet endroit-là. Enfin, elle m'avertit qu'il était 9 heures du soir, j'avais passé 10 heures de suite, comme un instant. Lecteur, si vous trouvez ces détails frivoles, n'allez pas plus avant. Tous sont précieux pour moi, et l'amitié m'ôte la liberté de choisir. Si vous aimez à voir de près les grands hommes, et si vous chérissez dans un récit la simplicité et la sincérité, vous serez satisfait. Je ne donne rien à l'imagination, je n'exagère aucune vertu, je ne dissimule aucun défaut. Je me mets d'autre part dans ma narration qu'un peu d'ordre. Dans l'envie que j'avais de ne rien perdre de la mémoire de Rousseau, j'avais recueilli quelques autres anecdotes. Mais elles n'étaient fondées que sur des oui-dire, et j'ai voulu donner à cet ouvrage un mérite étranger même aux meilleures histoires, c'est de ne pas renfermer la plus légère circonstance que je n'en ai été le témoin ou que je ne la tienne de la bouche même de Rousseau. Il était né à Genève en 1712 d'un père de la religion réformée et horloger de profession. Sa naissance coûta la vie à sa mère. C'était une femme d'esprit qui faisait même des vers agréablement. Il m'en a cité d'elle qu'elle avait improvisé dans une promenade, mais je les ai oubliés. Il fut élevé par une sœur de son père, et jamais il n'oublia les soins qu'elle avait pris de son enfance. Elle vit peut-être encore, elle vivait du moins il y a quelques années, et voici comment je l'ai su. Un de mes anciens camarades de collège me pria, il y a 3 ans, de le présenter à Jean-Jacques Rousseau. C'était un brave garçon dont la tête était aussi chaude que le cœur. Il me dit qu'il avait vu Rousseau au château de Try et qu'étant ensuite allé voir Voltaire à Genève, on lui avait dit que la tante de Rousseau demeurait près de là, dans un village. Il fut lui rendre visite. Il trouva une vieille femme qui, en apprenant qu'il avait vu son neveu, ne se possédait pas d'aise. « Comment, monsieur, lui dit-elle, vous l'avez vu? Est-il donc vrai qu'il n'a pas de religion? Nos ministres disent que c'est un impie, mais comment cela se peut-il? Il m'envoie de quoi vivre? Pauvre vieille femme de plus de 80 ans, seule, sans servante, dans un grenier, mais sans lui je serais morte de froid et de faim. » Je répétais la chose à Rousseau mot pour mot. « Je le devais, me dit-il. Elle m'avait élevé orphelin. » Cependant, il ne voulut pas recevoir mon camarade, quoique j'eusse tout disposé pour l'y engager. « Ne me l'amenez pas, dit-il, il m'a fait peur. Il m'a écrit une lettre où il me mettait au-dessus de Jésus-Christ. » Il apprit à connaître ses lettres dans des romans. Son père le faisait lire auprès de son établi. Vers l'âge de 7 à 8 ans, il lui tomba entre les mains Plutarque, qui devint sa lecture favorite. Dès l'enfance, il s'exprimait avec sensibilité. Son père, qui lui trouvait beaucoup de ressemblance avec l'épouse qu'il regrettait, lui disait quelquefois le matin, en se levant, « Allons, Jean-Jacques, parle-moi de ta mère. » « Si je vous en parle, disait-il, vous allez pleurer. » Ce n'était point par singularité qu'il aimait à porter ce nom de Jean-Jacques, mais parce qu'il lui rappelait un âge heureux et le souvenir d'un père dont il ne me parlait jamais qu'avec attendrissement. Il m'a raconté que son père était d'un tempérament très vigoureux, grand chasseur, aimant la bonne chair et à se réjouir. Dans ce temps-là, on formait à Genève des coteries dont chaque membre, suivant l'esprit de la Réforme, prenait un surnom de l'Ancien Testament. Celui de son père était David. Peut-être ce surnom contribua-t-il à le lier avec David Hume, car il aimait à attacher au même nom les mêmes idées, comme je le dirais dans une occasion où il s'agissait du mien. Au reste, ce préjugé lui a été commun avec les plus grands hommes de l'Antiquité et même avec le peuple romain, qui confia sa destinée à des généraux dont le nom lui paraissait d'un heureux augure pour avoir été porté par des hommes dont il chérissait la mémoire. C'est ce qu'on peut voir surtout dans la vie des Scipions. Alors il n'y avait pas à Genève un citoyen bien élevé qui ne sut son plus tard que par cœur. Rousseau m'a dit qu'il a été un temps où il connaissait mieux les rues d'Athènes que celles de Genève. Les jeunes gens ne parlaient dans leur conversation que de législation, des moyens d'établir ou de réformer la société. Les âmes étaient nobles, grandes et gaies. Un jour d'été, une troupe de bourgeois prenait le frais devant leur porte. Ils causaient et riaient entre eux lorsqu'un lord vint à passer. Il crut à leur rire qu'ils se moquaient de lui. Il s'arrêta et leur dit fièrement « Mais pourquoi riez-vous quand je passe ?» Un des bourgeois lui répondit sur le même ton « Et pourquoi passez-vous quand nous rions ?» Son père eut une querelle avec un capitaine qu'il avait insulté et qui appartenait à une famille considérable de la ville. Il proposa au capitaine de mettre l'épée à la main, ce que celui-ci refusa. Cette aventure renversa sa fortune. La famille de son adversaire le força de s'expatrier. Il mourut âgé de près de 100 ans. Rousseau, vers l'âge de 20 ans, fit à pied un voyage à Paris. Il y séjourna peu, se rendit de là, toujours à pied, à Chambéry, en dirigeant sa route par Lyon, qu'il désirait revoir. Il arriva dans cette ville à l'entrée de la nuit, soupa avec son dernier morceau de pain et se coucha sur le pavé sous une arcade ombragée par des marronniers. C'était en été. « Je n'ai jamais passé une nuit plus agréable, » me dit-il. « Je dormis d'un sommeil profond. Ensuite, je fus réveillé au lever du soleil par le chant des oiseaux. Frais et gai comme eux, je marchais en chantant dans les rues, ne sachant où j'allais, ne m'en souciant guère. Je n'avais pas un sou dans ma poche. Un abbé qui venait derrière moi m'appela. « Bon petit ami, vous savez la musique, voudriez-vous en copier ?»« Oh, c'était tout ce que je savais faire. Je le suivis et il me fit travailler. » »« La Providence, lui dis-je, vous servit à point nommé. » Mais que serait-il arrivé si vous n'eussiez pas rencontré cet abbé ? J'aurais, me dit-il, probablement fini par demander l'aumône quand l'appétit serait venu. Il avait un frère aîné qui partit à 17 ans pour aller faire fortune aux Indes. Jamais depuis il n'en a ouï parler. Il fut sollicité par un directeur de la Compagnie des Indes d'aller à la Chine. Et il était fâché de n'avoir pas pris ce parti. C'est à peu près vers ce temps-là qu'il fut en Italie. Le noble aveu qu'il fait de sa position, de ses fautes et de ses malheurs, au commencement du 3e volume d'Émile, est si touchant que je ne peux me refuser le plaisir de le transcrire. Il y a 30 ans que dans une ville d'Italie, un jeune homme expatrié se voyait réduit à la dernière misère. Il était né calviniste, mais par les suites d'une étourderie, se trouvant fugitif en pays étranger, sans ressources, il changea de religion pour avoir du pain. Il y avait dans cette ville un hospice pour les prosélytes. Il y fut admis. En l'instruisant sur la controverse, on lui donna des doutes qu'il n'avait pas et on lui apprit le mal qu'il ignorait. Il entendit des dogmes nouveaux, il vit des mœurs encore plus nouvelles. Il les vit et faillit en être la victime. Il voulut fuir, on l'enferma. Il se plaignit, on le punit de ses plaintes. À la merci de ses tyrans, il se vit traiter en criminel pour n'avoir pas voulu céder au crime. Que ceux qui savent combien la première épreuve de la violence et de la justice irrite un jeune cœur sans expérience, se figurent l'état du sien. Des larmes de rage coulaient de ses yeux. L'indignation l'étouffait, il implorait le ciel et les hommes. Il se confiait à tout le monde et n'était écouté de personne. Il ne voyait que de vils domestiques soumises à l'infâme qui l'outrageait ou des complices du même crime qui se raillaient de sa résistance et l'excitaient à les imiter. Il était perdu sans un honnête ecclésiastique qui vint à l'hospice pour quelque affaire et qu'il trouva le moyen de consulter en secret. L'ecclésiastique était pauvre et avait besoin de tout le monde, mais l'opprimé avait encore plus besoin de lui, et il n'hésita pas à favoriser son évasion au risque de se faire un dangereux ennemi. Échappé au vice pour entrer dans l'indigence, le jeune homme luttait sans succès contre sa destinée. Un moment, il se crut au-dessus d'elle. À la première lueur de fortune, ses maux et son protecteur furent oubliés. Il fut bientôt puni de cette ingratitude. Toutes ses espérances s'évanouirent. Sa jeunesse avait beau le favoriser, ses idées romanesques gâtaient tout. N'ayant ni assez de talent, ni assez d'adresse pour se faire un chemin facile, ne sachant être ni modéré ni méchant, il prétendit à tant de choses qu'il ne sut parvenir à rien. Retombé dans sa première détresse, sans pain, sans asile, prêt à mourir de faim, il se ressouvint de son bienfaiteur. Il y retourne, il le trouve, il en est bien reçu. Sa vue rappelle à l'ecclésiastique une bonne action qu'il avait faite. Un tel souvenir réjouit toujours l'âme. Cet homme était naturellement humain, compatissant. Il sentait les peines d'autrui par les siennes, et le bien-être n'avait point endurci son cœur. Enfin, les leçons de la sagesse et une vertu éclairée avaient affermi son bon naturel. Il accueille le jeune homme, lui cherche un gîte, l'y recommande. Il partage avec lui son nécessaire à peine suffisant pour deux. Il fait plus, il l'instruit, le console. Il lui apprend l'art difficile de supporter patiemment l'adversité. Gens à préjuger, est-ce d'un prêtre, est-ce en Italie que vous eussiez espéré tout cela? Cet honnête ecclésiastique était un pauvre vicaire savoyard qu'une aventure de jeunesse avait mis mal avec son évêque. Après un tableau des malheurs et des vertus de son protecteur, je me lasse, dit Rousseau, de parler en tierce personne, et c'est un soin fort superflu, car vous sentez bien, chers concitoyens, que ce malheureux fugitif, c'est moi-même. Je me crois assez loin des désordres de ma jeunesse pour oser les avouer, et la main qui m'en tira mérite bien qu'au dépend d'un peu de honte, je rende au moins quelque honneur à ses bienfaits. Échappé aux mains cruelles des moines, recueilli et réchauffé par un bon samaritain, il se vit un moment à la porte de la fortune et des honneurs. Il fut attaché à la légation de France à Venise, et il fit, pendant l'absence de l'ambassadeur, les fonctions de secrétaire d'ambassade. L'ambassadeur, qui était fort avare, voulut partager avec lui l'argent que la cour de France passe dans ces circonstances en gratification au secrétaire. Pour l'engager à faire ce sacrifice, l'ambassadeur lui disait « Vous n'avez point de dépenses à faire, point de maison à soutenir pour moi, je suis obligé de raccommoder mes bas. » Et moi aussi, dit Rousseau, mais quand je les raccommode, il faut bien que je paye quelqu'un pour faire vos dépêches. J'observais à cette occasion que tous les ambitieux finissaient par être avares, que l'avarice même n'était qu'une ambition passive, et que ces deux passions sont également dures, cruelles et injustes. Le caractère de cet ambassadeur était bien connu aux affaires étrangères. Une personne digne de foi m'a cité plusieurs traits de son avarice. « Trois souliers, disait-il souvent, équivalent à deux paires, parce qu'il y en a toujours un plutôt usé que l'autre, en conséquence, il se faisait toujours faire trois souliers à la fois. » Rousseau a vécu à Montpellier, en Franche-Comté, en Suisse, aux environs de Neuchâtel, mais j'ignore à quelles époques. Je lui ai fait rarement des questions à ce sujet. Il ne me communiquait de sa vie passée que ce qui lui plaisait. Content de lui, tel que je le voyais, peu m'importait ce qu'il avait été. Un jour, cependant, je lui demandais s'il n'avait pas fait le tour du monde et s'il n'était pas le saint preux de sa nouvelle Héloïse. « Non, non, me dit-il, je ne suis pas sorti de l'Europe. Saint preux n'est pas tout à fait ce que j'ai été, mais ce que j'aurais voulu être. » Il paraît que sa destinée, au défaut des richesses, sema sur sa route un peu de bonheur. Il eut un ami dans la personne de George Keith, Milord Maréchal, gouverneur de Neuchâtel. Il en conservait précieusement la mémoire. Ils avaient formé le projet, conjointement avec un capitaine de la Compagnie des Indes, d'acheter chacun une métairie sur les bords du lac de Genève pour y passer leurs jours. Les trois solitudes auraient été entre elles à une demi-lieue de distance. Quand l'un des amis aurait voulu recevoir la visite des deux autres, il aurait arboré un pavillon au haut de sa maison. Par cet arrangement, chacun d'eux se ménageait la liberté dans son habitation et la vue du toit d'un ami. Il a demeuré plusieurs années à Montmorency, dans une petite maison située à mi-côte au milieu du village. Mais il en a occupé une bien plus agréable dans le bois même de Montmorency. C'était un lieu charmant, me dit-il, qu'on appelait l'ermitage, mais il n'existe plus, on l'a gâté. J'allais souvent me promener dans un endroit retiré de la forêt et qui me plaisait beaucoup. Un jour, j'y trouvais des sièges de gazon. Oh, cette surprise me fit grand plaisir. Vous aviez donc des amis, lui dis-je. Oh, dans ce temps-là, j'en avais, reprit-il, mais à présent, je n'en ai plus. Pourquoi, lui disais-je une fois, avez-vous quitté le séjour de la campagne que vous aimez tant pour habiter une des rues de Paris les plus bruyantes ? Il faut, me répondit-il, pouvoir vivre à la campagne. Mon état de copiste de musique m'oblige d'être à Paris. D'ailleurs, on a beau dire qu'on vit à bon marché à la campagne, on y tire presque tout des villes. Si vous avez besoin de 2 liards de poivre, il vous en coûte 6 sous de commission. Et puis, j'y étais accablé de gens indiscrets. Un jour, entre autres, une femme de Paris, pour m'épargner un port de lettres de 4 sous, m'en fit goûter près de 4 francs. Elle m'envoya une lettre à Montmorency par un domestique. Je lui donnais un dîner et un écu pour sa peine. C'était bien la moindre chose. Il avait fait le chemin à pied et il venait pour moi. Quant à la rue Plâtrière, bon, c'est la première rue où j'ai logé en arrivant à Paris. C'est une affaire d'habitude. Il y a 25 ans que j'y demeure. Il avait épousé Mademoiselle Levasseur du pays de Bresse, de la religion catholique. Après avoir jeté un coup d'œil sur les événements de sa vie, passons à sa constitution physique. Dans la plupart de ses voyages, il aimait à aller à pied. Mais cet exercice n'avait jamais pu l'accoutumer à marcher sur le pavé. Il avait les pieds très sensibles. « Je ne crains pas la mort, disait-il, mais je crains la douleur. » Cependant, il était très vigoureux. À plus de 60 ans, il allait après-midi au Pré Saint-Gervais, ou bien il faisait le tour du bois de Boulogne, sans qu'à la fin de cette promenade il parût fatigué. Il avait eu des fluxions aux dents qui lui en avaient fait perdre une partie. Il faisait passer la douleur en mettant de l'eau très froide dans sa bouche. Il avait observé que la chaleur des aliments occasionne les maux de dents et que les animaux qui boivent et mangent froid, les ont fort saines. J'ai vérifié la bonté de son remède et de son observation, car les peuples du Nord, entre autres les Hollandais, ont presque tous les dents gâtées par l'usage du thé qu'ils boivent très chaud, et les paysans de mon pays les ont très blanches. Dans sa jeunesse, il eut des palpitations si fortes qu'on entendait les battements de son cœur de l'appartement voisin. « J'étais alors amoureux, me dit-il, je fus trouvé à Montpellier, Monsieur Fitz, fameux médecin. Il me regarda en riant et en me frappant sur l'épaule. « Mon bon ami, me dit-il, buvez-moi de temps en temps un bon verre de vin. » Il appelait les vapeurs la maladie des gens heureux. Les vapeurs de l'amour sont douces, lui dis-je, mais si vous aviez avec celle-ci éprouvé celle de l'ambition, vous en jugeriez peut-être autrement. Il avait du temps à autre quelques ressentiments de ce mal. Il m'a conté qu'il n'y avait pas longtemps, il avait cru mourir un jour qu'il était dans le cul-de-sac dauphin, sans en pouvoir sortir parce que la porte des Tuileries était fermée derrière lui, et que l'entrée de la rue était barrée par des carrosses. Mais dès que le chemin fut libre, son inquiétude se dissipa. Il avait appliqué à ce mal le seul remède convenable à tous les maux, qui est d'en ôter la cause. Il s'abstenait de méditation, de lecture et de liqueur forte. Les exercices du corps, le repos de l'âme et la dissipation avaient achevé d'en affaiblir les effets. Il fut longtemps affligé d'une descente et d'une rétention d'urine qui l'obligèrent d'user de bandages et d'une sonde. Comme il vivait à la campagne et presque toujours seul dans les bois, il imagina de porter une robe longue et fourrée pour cacher son incommodité, et comme dans cet état une perruque était peu commode, il se coiffa d'un bonnet. Mais d'un autre côté, cet habillement paraissant extraordinaire aux enfants et aux badauds qui le suivaient partout, il fut obligé d'y renoncer. Voilà comment on a attribué à l'esprit de singularité ce prétendu habit d'Arménien que ses infirmités lui avaient rendu nécessaire. Il s'est guéri à la fin de ses maux en renonçant à la médecine et aux médecins. Il ne les appelait pas, même dans les accidents les plus imprévus. En 1776, à la fin de l'automne, en descendant seul le soir la pente de Ménilmontant, un de ces grands chiens danois que la vanité des riches fait courir dans les rues au-devant de leurs carrosses, pour le malheur des gens de pied, le renversa si rudement sur le pavé qu'il en perdit toute connaissance. Des gens charitables qui passaient le relevèrent. Il avait la lèvre supérieure fendue, le pouce de la main gauche tout écorché. Il revint à lui. On voulut lui chercher une voiture. Il n'en voulut point, de peur d'y être saisi de froid. Il revint chez lui à pied. Un médecin accourut, il le remercia de son amitié, mais il refusa son secours et se contenta de laver ses blessures qui, au bout de quelques jours, se cicatrisèrent parfaitement. « C'est la nature, disait-il, qui guérit, ce ne sont pas les hommes. » Dans les maladies intérieures, il se mettait à la diète et voulait être seul, prétendant qu'alors le repos et la solitude étaient aussi nécessaires au corps qu'à l'âme. Son régime en santé l'a maintenu frais, vigoureux et gai jusqu'à la fin de sa vie. Il se levait à 5 heures du matin en été, se mettait à copier de la musique jusqu'à 7h30. Alors il déjeunait et pendant le déjeuner, il s'occupait à arranger sur des papiers les plantes qu'il avait cueillies l'après-midi de la veille. Après déjeuner, il se remettait à copier de la musique. Il dînait à 12h30. À 1h30, il allait prendre du café, assez souvent au café des Champs-Élysées, où nous nous donnions rendez-vous. Ensuite, il allait herboriser dans les campagnes, le chapeau sous le bras en plein soleil, même dans la canicule. Il prétendait que l'action du soleil lui faisait du bien. Cependant, je lui disais que tous les peuples méridionaux couvraient leur tête de coiffure d'autant plus élevés et qu'ils approchent plus de la ligne. Je lui citais les turbans des Turcs et des Persans, les longs bonnets pointus des Chinois et des Siamois, les mitres élevées des Arabes, qui cherchent tous à ménager entre leur tête et leur coiffure un grand volume d'air, tandis que les peuples du Nord n'ont que des toques. J'ajoutais que la nature fait croire dans les pays chauds les arbres à larges feuilles, qui semblent destinés à donner aux animaux et aux hommes des ombrages plus épais. Enfin, je lui rappelais l'instinct des troupeaux qui vont se mettre à l'ombre au fort de la chaleur. Mais ces raisons ne produisaient aucun effet. Il me citait l'habitude et son expérience. Cependant, j'attribue à ces promenades brûlantes une maladie qu'il éprouva dans l'été de 1777. C'était une révolution de bile avec des vomissements et des crispations de nerfs si violentes qu'il m'avoua n'avoir jamais tant souffert. Sa dernière maladie arrivait l'année suivante, dans la même saison, à la suite des mêmes exercices, pourrait bien avoir eu la même cause. Autant il aimait le soleil, autant il craignait la pluie. Quand il pleuvait, il ne sortait point. « Je suis, me disait-il en riant, tout le contraire du petit bonhomme du baromètre suisse. Quand il rentre, je sors, et quand il sort, je rentre. » Il était de retour de la promenade un peu avant la fin du jour. Il soupait et se couchait à 9h30. Tel était l'ordre de sa vie. Bon, ses goûts avaient la même simplicité. À commencer par le sens qui est le précurseur de celui du goût, comme il n'usait point de tabac, il avait l'odorat fort subtil. Il ne recueillait pas de plantes qu'il ne les flaira, et je crois qu'il aurait pu faire une botanique de l'odorat s'il y avait dans les langues autant de noms propres à caractériser les odeurs qu'il y a d'odeurs dans la nature. Il m'avait appris à connaître beaucoup de plantes par les seules émanations. L'œillet à odeur de girofle, la croisette qui sent le miel, le muscari, la prune, un certain chénopodium, la morue salée, une espèce de géranium, le gigot de mouton rôti, une veste de loup façonnée en boîte à savonnette, divisée en côtes de melon avec un tel artifice que, si on cessait à l'ouvrir par là, elle se fend tout à coup par une suture transversale et imperceptible et vous couvre d'une poussière fétide, et une infinité d'autres. Mais que dire en passant de ces jeux où la nature imite jusqu'aux ouvrages de l'homme comme pour s'en moquer? Il mangeait de tous les aliments, à l'exception des asperges, parce qu'il avait éprouvé qu'elles offensent la vessie. Il regardait les haricots, les petits pois, les jeunes artichauts, comme moins sains et moins agréables que ceux qui ont acquis leur maturité. Il ne mettait pas à cet égard de différence entre les primeurs en légumes et les primeurs en fruits. Il aimait beaucoup les fèves de marais quand elles ont leur grosseur naturelle et que toutefois elles sont encore tendres. Il m'a raconté que dans les premiers temps qu'il vint à Paris, il soupait avec des biscuits. Il y avait alors deux fameux pâtissiers au Palais Royal chez lesquels beaucoup de personnes allaient faire leur repas du soir. L'un d'eux mettait du citron dans ses biscuits, l'autre n'en mettait pas. Celui-ci passait pour le meilleur. Autrefois, me disait-il, nous buvions, ma femme et moi, un quart de bouteille de vin à notre souper. Ensuite est venue la demi-bouteille, et à présent nous buvons la bouteille tout entière. Cela nous réchauffe. Il aimait à se rappeler les bons laitages de la Suisse, entre autres celui qu'on mange en quelques endroits des bords du lac de Genève. La crème en été y est couleur de rose, parce que les vaches y pèsent quantité de fraises qui croissent dans les pâturages des montagnes. « Je ne voudrais pas, disait-il, faire tous les jours, bonne chère, mais je ne la hais pas. » Un jour que j'étais dans le carrosse de Montpellier, on nous servit à quelques lieues de cette ville un dîner excellent en gibier, en poisson et en fruits. Nous crûmes qu'il nous en coûterait beaucoup. On nous demanda 30 sous par tête. Le bon marché, la société qui se convenait, la beauté du paysage de la saison, nous firent prendre le parti de laisser aller le carrosse. Nous restâmes 3 jours. À nous réjouir, je n'ai jamais fait meilleure chère. On ne jouit des biens de la vie que dans les pays où il n'y a point de commerce. Le désir de tout convertir en or fait qu'ailleurs on se prive de tout. Cette réflexion peut servir de réponse à ceux de nos politiques modernes qui veulent étendre sans discrétion le commerce d'un pays et qui regardent cette extension comme le plus grand avantage qu'on puisse lui procurer. À l'observation de Jean-Jacques sur les jouissances des peuples qui n'ont point de commerce, j'en ajouterai une sur les privations de ceux qui en ont beaucoup. J'ai un peu voyagé et j'ai vu dans les pays où l'on fabrique beaucoup de draps, le peuple presque nu. Dans ceux où l'on engraisse quantité de bœufs et de volailles, le paysan sans beurre, sans œufs et sans viande, et ne mangeant que du pain noir dans ceux où croît le plus beau froment. C'est ce que j'ai vu à la fois en Normandie, dont les campagnes sont les plus fertiles et les plus commerçantes que je connaisse. Au demeurant, personne n'était plus sobre que Rousseau. Dans nos promenades, c'était toujours moi qui lui faisais la proposition de goûter. Il acceptait, mais il fallait absolument qu'il payât la moitié de la dépense, et si je la payais à son insu, il refusait les semaines suivantes de venir avec moi. « Vous manquez, disait-il, à nos engagements. » Je sais que la gourmandise est un goût de l'enfance, mais c'est aussi quelquefois celui des vieillards. S'il avait en ce vice, combien de tables délicates à Paris auraient été à sa discrétion? Mais la bonne compagnie est plus rare que la bonne chère, et le plaisir disparaissait pour lui dès qu'il était en opposition avec quelques vertus. J'en citerai une occasion où il fut sollicité par un désir fort vif. Un jour d'été très chaud, nous nous promenions au Pré Saint-Gervais. Il était tout en sueur. Nous fûmes nous asseoir dans une des charmantes solitudes de ce lieu, sur l'herbe fraîche, à l'ombre des cerisiers, ayant devant nous un vaste champ de groseilliers dont les fruits étaient tout rouges. « J'ai grand soif, me dit-il. Oh, je mangerai bien des groseilles. Elles sont mûres, oh, elles font envie. Il n'y a pas moyen d'en avoir, le maître n'est pas là. » Il n'y toucha pas. Il n'y avait aux environs ni garde, ni maître, ni témoin. Mais il voyait dans le champ la statue de la justice. Ce n'était pas son épée qu'il respectait, c'était ses balances. Ses yeux n'étaient pas moins continents que son goût. Jamais il ne les fixait sur une femme, quelque jolie qu'elle fût. Son regard était assuré, même perçant, lorsqu'il était ému. Mais jamais il ne l'arrêtait que sur celui de l'homme auquel il voulait se communiquer. Ce cas rare excepté, il ne s'occupait dans les rues qu'à en sortir sûrement et promptement. Je lui disais un jour, sur son indifférence pour les objets devant lesquels nous passions, « Vous ressemblez à Xénocrates, qui pensait que de jeter les yeux dans la maison d'autrui, c'était autant que d'y mettre les pieds. »« Oh, c'est un peu trop fort, » répondit-il. Le spectacle des hommes, loin de lui inspirer de la curiosité, la lui avait ôté. J'ai souvent remarqué sur son front un nuage qui s'éclaircissait à mesure que nous sortions de Paris et qui se reformait à mesure que nous en rapprochions. Quand il était une fois dans la campagne, son visage devenait gai et serein. « Enfin, nous voilà, disait-il, hors des carrosses, du pavé et des hommes. » Il aimait surtout la verdure des champs. « J'ai dit à ma femme, me disait-il, quand tu me verras bien malade et sans espérance d'en revenir, fais-moi porter au milieu d'une prairie, sa vue me guérira. » Il ne voyait pas de fort loin, et pour apercevoir les objets éloignés, il s'aidait d'une lorgnette. Mais de près, il distinguait dans le calice des plus petites fleurs, des parties que j'y voyais à peine, avec une forte loupe. Il aimait l'aspect du Mont Valérien, et quelquefois, au coucher du soleil, il s'arrêtait à le considérer, sans rien dire, non pas seulement pour y observer les effets de la lumière mourante au milieu des nuages et des collines d'alentour, mais parce que cette vue lui rappelait les beaux couchers du soleil dans les montagnes de la Suisse. Il m'en faisait des tableaux charmants. On trouve quelquefois dans la Suisse, disait-il, des positions enchantées. J'y ai vu, au milieu d'un cratère entouré de longues pyramides de roches sèches et arides, des bassins où croissent les plus riches végétaux et d'où sortent des bouquets d'arbres au centre desquels est bien souvent une petite maison. Vous êtes dans les airs et vous apercevez sous vos pieds des points de vue délicieux. Cependant, ajoutait-il, je ne voudrais pas demeurer sur ces montagnes, parce que les belles vues gâtent le plaisir de la promenade, mais je voudrais y avoir ma maison à mi-côte. Il n'était sensible qu'aux beautés de la nature. Un jour, cependant, que j'allais à Sceaux pour la première fois, il me dit, « Vous le verrez avec plaisir. Oh, je n'aime pas les parcs, mais de tous ceux que j'ai vus, c'est celui que je préférerais. » Il n'approuvait pas les changements qu'on avait faits à celui de la Muette, où il allait quelquefois se promener. Les ruines des parcs l'affectaient plus que celles des châteaux. Il considérait avec intérêt ce mélange de plantes étrangères, sauvages et domestiques, ces charmilles redevenues des bois, ces grands arbres jadis taillés qui se hâtent de reprendre leur forme, ce concours où l'art des hommes ne lutte contre la nature que pour faire connaître son impuissance. Il riait de la bizarrerie de nos riches qui scellent sur les bords de leurs ruisseaux factices des grenouilles et des roseaux de plomb et qui font détruire avec grand soin ceux qui viennent naturellement. Il se moquait de leur mauvais goût qui leur fait entasser dans de petits terrains les simulacres des ruines d'architecture de tous les peuples et de tous les siècles. Mais quand elles y seraient même bien ordonnées, je crois qu'elles n'en feraient pas plus d'effet. Ce n'est pas parce que les monuments de l'Antiquité inspirent de la mélancolie que nous en aimons la vue. Ô grand, voulez-vous que nos parcs offrent un jour à la postérité des ruines vénérables comme celles des Grecs et des Romains? Faites régner comme eux la vertu dans vos palais et le bonheur dans les villages. Les athées, disait Rousseau, n'aiment point la campagne. Ils aiment bien celle des environs de Paris, où l'on a tous les plaisirs de la ville, les bonnes tables, les brochures, les jolies femmes. Mais si vous les ôtez de là, ils y meurent d'ennui, ils n'y voient rien. Il n'y a pas cependant sur la terre de peuple que le simple aspect de la nature n'ait pénétré du sentiment de la divinité. Si un homme de génie, comme Platon, arrivait chez des sauvages avec les découvertes modernes de la physique et qu'il leur dit « Vous adorez un être intelligent, mais vous ne connaissez presque rien de la beauté de ses ouvrages » et qu'il leur fit voir toutes les merveilles du microscope et du télescope, ah, mais quel serait leur ravissement ! Il tomberait à ses pieds, il l'adorerait lui-même comme un dieu. Mais comment se peut-il qu'il y ait des athées dans un siècle aussi éclairé que le nôtre? C'est que les yeux se ferment quand le cœur se resserre. On peut juger par ce que sentait Rousseau, qu'il ne voyait rien dans la nature avec indifférence. Cependant, tout ne l'intéressait pas également. Il préférait les ruisseaux aux rivières. Il n'aimait pas la vue de la mer qui inspire, disait-il, trop de mélancolie. De toutes les saisons, il n'aimait que le printemps. Quand, disait-il, les jours commencent à décroître, l'été est fini pour moi. Mon imagination me représente l'hiver. Vous avez fait, lui dis-je, votre année bien courte. Les beaux paysages de la Suisse vous ont gâté. Si vous aviez vu les longs hivers de la Russie, vous trouveriez les nôtres supportables. La nature, reprenait-il, est une belle femme, gaie, triste, mélancolique, qui ne m'intéresse pas toujours. Au reste, il n'y avait personne qui en tirât plus de jouissance, et il n'y avait pas une plante où il ne trouvât de la grâce et de la beauté. Mais novembre et décembre ne plaisaient qu'à sa raison. Il avait la voix juste, et il disait que la musique lui était aussi nécessaire que le pain. Mais quand il voulait chanter en s'accompagnant de son épinette pour me répéter quelques airs de sa composition, Il se plaignait de sa mauvaise voix cassée. Nous nous arrêtions quelquefois avec délice pour entendre le rossignol. Nos musiciens, me faisait-il observer, ont tous imité ses hauts et ses bas, ses roulades et ses caprices. Mais ce qui le caractérise, ses piou-piou prolongés, ses sanglots, ses sons gémissants qui vont à l'âme et qui traversent tout son chant, c'est qu'aucun d'eux n'a pu encore exprimer. Il n'y avait point d'oiseau dont la musique ne le rendît attentif. Les airs de l'alouette qu'on entend dans la prairie, tandis qu'elle échappe à la vue, le ramage du pinson dans les bosquets, le gazouillement de l'hirondelle sur les toits des villages, les plaintes de la tourterelle dans les bois, le chant de la fauvette qu'il comparait à celui d'une bergère, par son irrégularité, par je ne sais quoi de villageois, lui faisait naître les plus douces images. « Quels effets charmants, disait-il, on en pourrait tirer pour nos opéras où l'on représente des scènes champêtres. » On ne finirait pas sur les sensations d'un homme qui, au contraire de ceux qui rapportent à des lois mécaniques des opérations de leur âme, appliquait les affections de la sienne à toutes les jouissances de ses sens. L'amour n'était donc point en lui une simple affaire de tempérament. Il m'a assuré une chose que bien des gens auront peine à croire. C'est que jamais une fille du monde, quelque belle qu'elle fût, ne lui avait inspiré le moindre désir. Il croyait cependant que le simple concours des causes physiques pouvait être dirigé au point non seulement d'ébranler la sagesse, mais même de renverser la raison. Il m'en a cité un exemple frappant. Un jeune homme de Genève, élevé dans l'austérité des mœurs de la Réforme, vint à Versailles du temps du régent. Il entra le soir au château. La duchesse de Berry tenait le jeu. Il s'approcha d'elle. L'éclat de ses diamants, l'odeur de ses parfums, la vue de sa gorge demi-nue, le mirent tellement hors de lui que tout à coup il se jeta sur le sein de la duchesse en y collant à la fois ses mains et sa bouche. Les courtisans l'arrachèrent et voulurent le jeter par les fenêtres. Mais la duchesse défendit qu'on lui fît du mal et ordonna qu'on en prît soin. De l'autre côté, il ne regardait pas l'amour comme une simple affection platonique. Il avait refusé de voir une belle femme qu'il avait aimée et qui avait vieilli pour ne pas perdre l'illusion agréable qui lui en était restée. Il fallait que les agréments de la figure concourussent avec les qualités morales pour le rendre sensible. Alors, il leur trouvait tant de pouvoir que l'âge même ne l'aurait pas rendu capable d'y résister s'il n'avait évité les occasions où la résistance serait devenue nécessaire. Mais il n'en regardait pas moins l'amour dans un vieillard comme un désordre de la raison. « On n'aime point sans espérance, disait-il. J'aurais mauvaise opinion de la tête d'un vieillard amoureux. » Nous parlerons de quelques-unes des inclinations de sa jeunesse lorsqu'il sera question de son âme. Pour ne rien omettre ici de ce qui était étranger à son esprit et à son cœur, je vais parler de sa fortune.